Entretien Choc FM 105.1 avec Magda Yanjechak.
Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet essentiel, la violence familiale et les réalités particulières auxquelles peuvent faire face les familles migrantes dans notre communauté. Pour nous éclairer, nous recevons Liliana Mora, de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario et du Centre d'information juridique de l'Ontario. Bonjour Liliana et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Pour commencer, est-ce que ce serait possible de faire un point global et de me dire, quand on parle de violence familiale, de quoi on parle exactement et quelle forme ça peut prendre?
Lorsqu'on parle de violence familiale, on parle de la violence toutefois. Que souvent, on parle de la violence physique et c'est l'image à laquelle les personnes font référence la plupart du temps. Mais la violence, c'est très subtile et peut-être psychologique ou verbale. Ça peut être employer des mots, faire tort à la personne. Et peut prendre aussi la forme de la violence économique. Contrôler les finances d'une personne, l'empêcher de travailler, l'empêcher d'étudier. Et elle peut être même spirituelle. Par exemple, on peut utiliser la religion pour forcer une personne à faire certains gestes ou l'empêcher d'avoir certaines désertés. On parle bien entendu aussi de la violence sexuelle, comme des agressions sexuelles. Et aussi, et ce n'est pas seulement de l'action, ça peut être aussi de l'inaction. Et parce que la violence familiale englobe la violence conjugale, mais aussi c'est peut-être la violence envers les enfants ou envers des personnes aînées. Et on parle aussi de la possibilité de négliger, ne pas satisfaire les besoins de base d'une personne. Et ce qui peut être un peu surprenant dans mon travail, je rencontre une surcharge victime de violence et souvent elles sont incapables de reconnaître la violence même lorsqu'elle est.
On se parle aujourd'hui dans le cadre d'un atelier qui va bientôt avoir lieu, qui va se faire en français et qui va être abordé sous l'angle des femmes migrantes. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ce choix et quelles sont les difficultés pour les femmes migrantes ici à Toronto?
En fait, ce qui arrive avec les femmes migrantes, c'est qu'elles arrivent au Canada sans connaître le système de justice canadien. Et aussi, il y a les barrières linguistiques. Il y a beaucoup de femmes migrantes francophones qui arrivent dans des villes comme Toronto où les services de français ne sont pas aussi accessibles qu'en anglais. En plus, il y a le bagage culturel qui se peut que la femme dans son pays n'avait pas les mêmes droits qu'elle va avoir ici au Canada. Donc, justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes migrantes peuvent ne pas reconnaître la violence parce que la violence peut être normalisée dans les structures juridiques d'autres pays. Aussi, au niveau juridique, le thème peut être intimidant et parfois, une femme migrante ne va pas nécessairement avoir tout de suite sa résidence permanente. Donc, ça peut qu'elle ait un statut temporaire au Canada. Donc, c'est un peu cette idée de ne pas affecter son statut d'immigration qui va pousser peut-être la femme à moins parler de la violence, à moins d'aller chercher de l'aide, des peurs de voir quitter le pays, avec les conséquences que cela peut donner, par exemple, pour la femme, mais aussi pour ses enfants. J'ai entendu avec la télé, nous allons avoir la chance, justement, les aider à reconnaître la violence, savoir quoi faire les ressources existantes à tous les niveaux, y compris en matière de statut au Canada, parce qu'il y a des options juridiques, justement, des outils juridiques pour protéger le statut d'une femme qui serait victime de violence. Donc, c'est l'objectif. Reconnaître la violence, découvrir les ressources, justement pour ne pas avoir peur, justement pour ne pas tolérer la violence. Donc, ce sont des défis culturels, linguistiques, mais aussi en matière de statut d'immigration.
Et donc, vous me disiez que certaines femmes ne réalisent même pas parce que c'est normalisé dans leur pays. De manière globale, quels sont les signes qui peuvent alerter des différents types de violences peuvent être faits?
Vous savez que l'un des principaux signes, c'est l'isolement. Et justement, ce qu'on veut éviter. Puis en général, l'un des gestes de l'agresseur, c'est d'isoler la femme de sa famille, du travail, des études, des amis, justement pour exercer ses contrôles. Les signes ne sont pas nécessairement physiques ou pas victimes de violence. On va probablement vouloir cacher, utiliser du maquillage. Mais comme je mentionnais, la violence n'est pas toujours physique. Peut-être pour l'aéroport, ça va être vraiment au niveau de sa liberté. Est-ce qu'elle sort toute seule ou seulement lorsque son conjoint et sa conjointe lui donnent la permission? Et c'est vraiment au niveau de la relation qu'on va le voir, mais j'avoue que cela c'était subtil. Par exemple, dans mes appels, ou lorsque je parle aux femmes et sans soupçon, je commence à poser des questions spécifiques, notamment. OK, et est-ce que votre partenaire vous empêchait d'étudier ou c'était votre choix? Donc, c'est en posant des questions indirectes que l'on peut savoir s'il y a une situation de violence ou pas. En revanche, je profite pour attirer l'attention sur un point. Ce n'est pas parce qu'une personne, une femme est victime de violence qu'il faut la forcer à dénoncer. Il y a beaucoup de facteurs économiques, sociologiques, psychologiques qui font en sorte qu'une femme n'est pas nécessairement prête à quitter son partenaire violent ou peut-être qu'elle n'est pas prête à reconnaître la violence. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit qu'il y a de la violence qu'il faut forcer la personne, sinon la personne risque de s'enfermer sur elle-même. Peut-être c'est juste d'écouter la personne et l'accompagner pendant son processus en attendant qu'elle soit.
Et justement, du coup, ça me fait me demander à quel moment il est important de faire appel à des services juridiques ou à des ressources spécialisées, que ce soit justement la victime elle-même, mais aussi justement quand on a un proche ou qu'on a une inquiétude.
Dès le moment qu'on a un soupçon, j'encouragerai les personnes à communiquer pour demander de l'aide. Parce qu'on veut intervenir avant que la situation s'aggrave. Et d'expérience, parfois on dit, les choses vont se régler. Mais dans mon expérience, les choses ne font qu'empirer si on ne fait rien. Et justement, l'un des éléments que les personnes négligent, c'est d'être informées, connaître les ressources. Par exemple, si vous connaissez une tante victime de violence ou si vous en êtes une, il y a la ligne en Ontario PANED avec laquelle vous pouvez communiquer. Et on va pouvoir vous référer à des ressources locales, à des services d'accompagnement, justement pour vous appuyer. Peu importe à quel stade est-ce que vous êtes. Est-ce que vous avez besoin juste de quelqu'un pour en parler ou est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner à la police? Et si vous en avez besoin, vous pouvez communiquer au 1-877-336-2433 ou vous pouvez visiter le site samaid.ca, samaide.ca. C'est la même chose au niveau juridique. Le Centre de formation juridique de l'Ontario offre une formation juridique sur tous les domaines des droits. N'attendez pas d'être au cœur d'un litige judiciaire. Le meilleur moment d'aider une personne, c'est en amont. Par exemple, comment protéger ses finances avant la séparation. Donc, le plus tôt qu'on nous appelle dans le processus, le mieux qu'on peut prévenir des agressions plus graves, des agressions physiques, par exemple. Dès le moment où vous soupçonnez qu'il y a un problème, n'hésitez pas à communiquer avec les services comme ça, FAMED au niveau social ou avec le Centre de formation juridique de l'Ontario au niveau juridique. Aussi, sachez que parfois, nous sommes obligés de signaler, et là, pardon, je parle de tout le monde, et la loi crée un devoir de signalement dans certaines situations, par exemple lorsqu'un enfant peut être victime de violence. Donc, nous n'avons pas l'option, dès le moment que nous trouvons des négligences, d'abus psychologiques ou sexuels envers un enfant, nous devons signaler cette situation aux autorités compétentes, un devoir légal.
J'entends bien et ça fait écho à ce que vous disiez au tout début par rapport à la négligence. Vous avez donc parlé de ressources qui existaient. Est-ce qu'il y a des ressources entièrement en français qui existent? Notamment, vous m'expliquiez qu'il ne fallait pas pousser les femmes qui n'étaient pas prêtes, mais que c'est important du coup de les outiller et donc d'outiller aussi les personnes qui souhaitent les aider. Est-ce qu'il y a des ressources justement pour les francophones dans une province qui est quand même majoritairement anglophone?
Oui, et justement au niveau social, il y a PAMED et la raison pour laquelle la ligne a été créée en pensée, c'est justement pour aider les sans francophones. Donc, les intervenants et intervenantes qui sont formés dans cette ligne sont capables, à partir des besoins de la femme, pouvoir les diriger vers d'autres ressources locales. Au niveau juridique, une pile à sûr, ce serait les centres de formation juridique de l'Ontario. Et nous, par exemple, si on voit que la personne est admissible à l'aide juridique de l'Ontario, on va la référer. Mais aussi, il existe nombreux services, par exemple, en matière d'agression à caractère sexuel. Il existe un service de conseil juridique sommaire offert dans le cadre d'un programme de gouvernement de l'Ontario. Il y a les centres hippocampes de l'Ontario, un service spécialisé en plusieurs domaines pour les sans victimes de violence. Et justement, j'en profite pour parler d'un sujet important, les ressources limitées. Donc, nous, au Centre d'information juridique, on peut faire un certain accompagnement. Juste l'information générale, nous n'offrons pas les services de représentation des conseils juridiques. Des lignes comme FAMED réfèrent à des ressources existantes. Mais malheureusement, il avise qu'une femme a besoin de services et que ce service ne soit pas disponible gratuitement ou qu'elle rencontre des défis et donc la personne n'a pas l'accès à avoir de l'aide. Je vais vous donner un exemple très concret. Même si une personne connaît tous ses droits, un défi pour plusieurs femmes en Ontario actuellement, vous savez, d'une crise en matière de logement. Et comme la femme n'a pas les moyens financiers d'équiter son partenaire violent, comme il n'y a pas assez de places dans des centres d'hébergement, la femme va tolérer la violence. Donc, même si nous, on veut appuyer les femmes, parfois, il lui manque de ressources et malheureusement, on n'a pas à eux les resserrer. Les services en matière de violence au niveau juridique ils sont très limités. Souvent, ils sont limités à quelques heures.
Et du coup, vous m'expliquez que la conjoncture actuelle fait qu'il y a encore plus de difficultés pour les femmes victimes de violences. Est-ce qu'en parallèle, vous avez des chiffres qui peuvent nous indiquer si la conjoncture augmente également les violences?
Par rapport au programme de formation juridique, je statistiques et nous, on reçoit des questions par rapport à n'importe quel domaine du droit, pas seulement au niveau criminel et droit de la famille, mais près d'un cas sur dix comporte un volet de violence familiale qui est énorme. Au niveau des statistiques publiques, formelles, au niveau de la violence. Depuis la pandémie, il y a eu une augmentation. Nous avons des chiffres, par exemple, au Canada, en moyenne, chaque 2 jours, il y a un féminicide. En Ontario, c'est près d'un féminicide à chaque semaine. Ces tirs sont énormes. Et je veux juste rappeler qu'un féminicide est une mère dont les motifs est fondé sur des genres. Aussi, en 2024, 240 femmes et filles ont été assassinées, principalement par des hommes, qui est une augmentation de 54% par rapport au taux enregistré avant la COVID. Ça, c'est une statistique que j'ai tirée d'un rapport récent de l'Ombudsman fédéral des victimes. Donc oui, c'est un problème qui s'est beaucoup aggravé.
J'entends ce que vous dites, ça montre d'autant plus l'importance de ce sujet en ce moment, je trouve. J'aurais souhaité savoir, avant de conclure, ce que vous diriez à une personne qui vit dans une situation difficile ou qui hésite à demander de l'aide.
Vraiment, sachez que même si ce n'est pas normal, malheureusement c'est commun, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il existe des ressources spécialisées à tous les niveaux. Si vous avez appelé la police, elle ne vous a pas aidé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres moyens pour vous aider. Aussi, ne sous-estimez jamais une situation. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter, toi, nous, le Centre de formation juridique de Montarlo, soit la ligne FAMED, juste pour discuter, juste pour vous informer. Et sachez que de façon générale, et nous allons rien vous imposer, nous allons écouter vos besoins et nous allons explorer des solutions qui vous conviennent. Aussi, très importante à savoir, à quoi vous pas avoir de la violence. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous avez souffrir de la violence, que nous allons discuter de cela devant les tribunaux. Ce qui est important, c'est de le mentionner parce qu'il existe des ressources spécialisées. Par exemple, vous voulez divorcer seulement parce que vous voulez juste mettre fin à la relation. On peut vous aider vers des ressources spécialisées. Mais au tribunal, vous n'êtes pas obligé d'évoquer la violence. Aussi, les services auxquels nous allons vous référer sont gratuits et confidentiels, donc vous pouvez partager l'information sans avoir des craintes. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. En cas de doute, communiquez avec nous et nous n'allons rien vous imposer. Nous allons explorer des options avec vous. Juste conclure, juste rappeler aux amis, aux proches, aux collègues, à la famille. Si jamais vous soupçonnez quelqu'un qui est victime de violence, parfois juste écoutez, que la personne sache que vous êtes disponible, vous n'êtes pas souffrant.
Ça me semble très très clair. Liliana Mora, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et à nos auditeurs et auditrices, rappelez-vous qu'il existe des ressources en français ici à Toronto et qu'il n'est jamais trop tôt pour demander des soutiens. C'était une entrevue de Magda Yantechak pour l'initiative de journalisme local à Toronto.